Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes, salariés, bénévoles, nos deux antennes, et puis surtout à vous, amis, auditrices et auditeurs. Les gentils raclements de gorge que vous venez d'entendre sont ceux de l'ami Jean-Jean. Bonjour à vous Jean-Jean, comment ça va la gorge?
Bien, bonjour l'ami Pignon, comme un vendredi pluvieux d'hiver, de fin d'hiver.
C'est ça, vous êtes malade en fait, ce que vous êtes en train de nous dire.
Vous savez, à mon âge, on est toujours malade.
C'est vrai. Eh bien, soignez-vous bien. Voilà.
Bon, je vous accompagne quand même aujourd'hui.
Oui, heureusement que vous êtes là. Nous sommes le vendredi 15 mars et aujourd'hui, nous vous parlerons notamment des marches qui sont organisées un peu partout en France, et notamment celle d'Évreux, qui prendra la forme également d'un ramassage de déchets. Ça se passe demain, samedi 16 mars. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités que sont Manon, Sarah et Anthony d'Alternativa et ANV COP21, section ébroïcienne. On fera évidemment un détour du côté des messages répondeurs. On a également un petit spot non pas publicitaire mais à caractère informatif pour l'événement PopMind.
Pas de publicité sur Principe Actif.
Surtout pas.
C'est bien connu, c'est ce qui fait l'avantage, enfin le charme et la qualité de la radio.
C'est vrai. On vous parlera donc de PopMind, événement qui a lieu la semaine prochaine du côté de Rouen. Ça se passe au 106, quasi exclusivement, mais également au 108.
106-108.
Juste à côté, événement de symposium autour des questions culturelles. Je crois qu'on pourrait dire ça dans cet esprit-là, ami Jean-Jean.
Culturel, des droits également, enfin il y a plein de choses.
Je crois que c'est une trentaine de conférences qui sont programmées. Et on vous fera vivre ça avec les différentes radios associatives régionales.
Tout à fait. Principe Actif sera également présent. Voilà.
Exactement. Et puis, comme chaque vendredi, on sera en fin d'émission avec l'ami Olivier pour le marronnier du jour. On ne sait pas encore de quoi il va nous causer, mais nous le saurons bien assez rapidement. Voilà, un programme avec de la bonne humeur, du bon son, des bons plans. En tout cas, on l'espère. On va s'ambiancer gentiment avec un vieux monsieur qui est décédé maintenant. C'est R.L. Burnside. Ouais. Un peu de Hill Country Blues. Le morceau s'appelle Going Away Baby. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR. R.L. Burnside avec le morceau Going Away Baby.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 dans le sud du département de l'Eure et 99.1 du côté de Rouen et son agglomération.
Bonjour, je suis Monsieur Paul, le trésorier du Club de l'Amitié. Nous souhaiterions sur votre radio passer juste un petit message pour le spectacle qui aura lieu dimanche 17 mars 2019 à 14h dans l'espace Philippe Auguste, salle Viking à Vernon. Je répète, dimanche 17 mars 2019 à 14h dans l'espace Philippe Auguste à Vernon. C'est un show cabaret qui s'appelle Norbert et ses drôles de dames, un spectacle de transformistes. Le prix des places, 20 euros. Réservation demain, mardi 12 mars, de 14h à 16h30 à la Villa Castelli, rue Saint-Lazare à Vernon, ou par téléphone au 06 33 97 56 49. Je répète, 06 33 97 56 49 ou au 06 80 98 15 99. Vous serez tous les bienvenus. C'est un spectacle pour tout public. Donc c'est le Club de l'Amitié de Vernon qui présente ce show cabaret. À très bientôt et merci de passer l'annonce.
Oui, bonjour Principe Actif, bonjour Évreux, c'est Wattou. Voilà, c'était pour vous présenter un spectacle qui aura lieu ce week-end proposé par la compagnie Fruits de la Passion, une compagnie de théâtre dont je fais partie moi-même. Alors c'est un spectacle qui s'appelle Une journée d'enfer, qui dure environ 1h40 et qui est mis en scène par le comédien professionnel Benjamin Brou. Ce spectacle aura lieu samedi 16 mars à 20h30 et dimanche 16 mars à 16h à la salle Jules Janin à Évreux. Pour ce spectacle, eh bien, ce sont trois pièces de théâtre de trois auteurs différents, donc rassemblées en un seul et même spectacle, dont une comédie de boulevard de Georges Feydeau. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que ce spectacle est proposé pour une cause caritative pour l'association de l'heure qui s'appelle Les Clowns de Sarah, dont le principe est des artistes, des musiciens qui vont distraire les enfants malades dans les hôpitaux de la région. Et c'est un spectacle donc qui est gratuit avec participation au chapeau. Voilà, je vous rappelle le nom de ce spectacle, ça s'appelle Une journée d'enfer. C'est programmé à la salle Jules Janin à Évreux, samedi 16 mars à 20h30 et dimanche à 16h. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, à bientôt.
Merci pour vos messages répondeurs. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos réactions, vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos infos ou tout simplement nous faire des petits bisous. Et pour ça, ça se passe au 02 32 62 57 32. Je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est la vôtre. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez également contacter, rentrer en contact via ce numéro avec l'ami Jean-Jean si vous êtes un groupe ou artiste musicien de musique, c'est ça qu'on dit, ami Jean-Jean. Dites-le, vous le dites bien mieux que moi.
Oui, musicien ou qui démarre dans la musique ou voilà, une bande d'amis qui se réunissent une fois par semaine ou une fois tous les mois pour faire de la musique. Voilà, et ben je viens et je m'invite à votre répète et on discute le bout de gras ensemble pendant le temps que vous voudrez. Et puis si vous êtes un peu plus pro entre guillemets, hein, et ben on passe un morceau de musique ou deux, format MP3, format CD dans l'émission. Voilà, quelques jours après.
Très bien, un petit peu de réclame avec l'événement PopMind dont vous en parlez en intro d'émission. Voici le petit spot qui a été créé pour l'événement.
Les radios normandes de découverte musicale s'associent du 19 au 21 mars dans le cadre de PopMind. PopMind, événement d'envergure européenne organisé par l'UFISC et l'ensemble de ses membres, c'est un temps de rassemblement et de partage du monde culturel, gratuit et ouvert à tous. Il se déroulera du 19 au 21 mars au 106 à Rouen. Les radios HDR, Westrack Radio, Principe Actif, Radio 666, Radio Campus Rouen, Radio Lomax, Radio Phoenix et Radio Pulse en partenariat avec la Ferrarock et Radio Campus France seront en direct du 106 les 19 et 20 mars de 19 à 20h afin de traiter de nombreux sujets qui seront abordés lors de ces 3 jours de rencontres et de débats. Plus d'infos sur pop-mind.eu.
Scaput Orchestra avec le morceau Charles Ingalls.
Oh bah c'est bien, et c'est, ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans
ça
être...
Oui. Principe Actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, ça, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, Principe Actif.
Et oui, c'est bien nous, et nous accueillons maintenant en plateau Manon, Sarah et Anthony d'Alternatiba et ANV, section hébroïtienne. Bonjour à tous les trois, merci d'être là parmi nous. Vous mettez un peu de musique, ami Jean-Jean, c'est ça qu'on entend ? C'est pas grave. Bonjour à vous, Manon et Sarah.
Bonjour.
Et Anthony, pardon, je vais y arriver. Hein.
Bonjour, bonjour.
C'est Jean-Jean qui me déconcentre. vous organisez une marche et, qui prend la forme également d'un ramassage de déchets. Ça se passe demain. C'est dans le cadre d'une mobilisation nationale, mais même internationale, tout le week-end, avec la grève des étudiants et des lycéens dont le coup d'envoi est aujourd'hui. Enfin, il y a déjà eu des précédents les semaines passées, mais voilà, il y a ce temps fort aujourd'hui et demain. Et donc à Évreux, concrètement, ça prend la forme d'un ramassage de déchets. On en parlera dans quelques instants, mais voilà, on va commencer peut-être par des considérations un peu plus générales et globales, notamment vous questionnant sur peut-être l'actualité brûlante, à savoir le naufrage du Grande America au large des côtes françaises et ce début de marée noire. Il n'y a pas de question au bout, mais voilà, peut-être une réaction. Vous n'êtes évidemment pas obligé, faut pas se sentir obligé, mais j'imagine que c'est quand même quelque chose qui vous préoccupe et qui vous touche en tant que militant associatif.
Oui, tout à fait. On peut dire que ça faisait un moment déjà, finalement. Donc on avait un petit peu oublié que ça pouvait exister, les marées noires, mais malgré certaines mesures qu'on peut être prises, on voit que finalement ça passe encore une fois au-dessus de la jambe, et puis on laisse des bateaux en fin de vie traverser les océans, et puis qui ont déversé l'or noir, entre guillemets, sur les plages et dans la nature au final.
Et on va être chargé, j'imagine, en tant que citoyen, et aussi l'État et les collectivités vont être chargés de récupérer la chose. J'imagine que ça va, c'est comme ça que ça va se passer.
Oui, bah, de toute façon, c'est jamais les pollueurs qui payent. Hein, ça n'existe pas, les pollueurs payeurs, hein, dans la vraie vie, de toute façon. Donc ça va être l'argent public, ça va être les bénévoles qui vont aller nettoyer les plages, les animaux aussi, hein, les oiseaux, etc., qui vont être pleins de mazout. Donc ça recommence encore une fois, et puis on va voir si enfin on va apprendre de nos erreurs.
Vous n'hésitez pas, hein, Sarah et Manon, à compléter, sinon on avance. Sur cette mobilisation du week-end entre le mouvement des étudiants et des lycéens, et puis plus globalement cette mobilisation internationale, ça fait un moment qu'il y a des marches une fois par mois. Je pense aussi au mouvement des coquelicots. Ça c'est pour les mobilisations, mais il y a également l'affaire du siècle, donc on rappelle qu'il y a une action en justice contre l'État français. Ça a été déposé, il me semble, hier, une pétition de plus de 2 millions de personnes. On a le sentiment que c'est un mouvement de fond. Qu'est-ce que vous y voyez, et qu'est-ce que éventuellement vous pouvez y attendre de ce mouvement de fond? Et puis, vous en faites pas, après on parlera de votre engagement plus personnel et local sur Évreux, mais voilà peut-être votre sentiment un peu général sur ce qui se passe en ce moment. On a ce sentiment-là que il y a un élan un peu collectif, une mobilisation qui brasse un peu plus large que les luttes par le passé.
Oui, exactement. On voit que les gens sont vraiment de plus en plus mobilisés sur l'ensemble des sujets. Ça a beaucoup commencé avec les changements climatiques, mais on voit également que ce qui concerne l'agriculture, l'utilisation de pesticides, avec le mouvement Nous voulons des coquelicots, les gens sont vraiment de plus en plus mobilisés et attendent que les gouvernements prennent des engagements pour aller dans le sens de l'écologie en général. Et on voit également avec le mouvement des Gilets jaunes que l'écologie intéresse tout le monde, et notamment parce que avec les Gilets jaunes, on avait pensé que ça avait commencé sur le sujet des voitures, de la consommation de carburant. Et à un moment donné, on s'est imaginé, enfin, certains médias se sont imaginés qu'il y allait avoir une guerre écologie-Gilets jaunes, et c'était pas du tout le cas. Les Gilets jaunes ont bien montré que c'était pas... Pour eux, c'était important également l'écologie, et qu'ils n'étaient pas dupes vis-à-vis de ce que mettaient en avant les médias ou le gouvernement.
Est-ce qu'on, justement, avec le mouvement des Gilets jaunes, on pourrait assister à ce qu'on appellerait une convergence au bout d'un moment entre ces questions sociales plutôt portées par ce mouvement des Gilets jaunes et les questions écologiques portées par les différents mouvements qu'on a évoqués, les marches qui sont organisées régulièrement, le mouvement des coquelicots, la mobilisation étudiante et lycéenne? Je sais que demain à Paris, il y a plusieurs cortèges qui partent de différents endroits et portés par différents mouvements qui ont prévu de se rassembler au bout d'un moment. Il y a donc en effet la manifestation depuis 17 ou 18 semaines maintenant des Gilets jaunes. Ces marches pour le climat, mais également aussi les manifestants, les mouvements associatifs, notamment les collectifs des banlieues Justice et Vérité pour Adama. On sent un élan comme ça, en tout cas dans une partie de la population, évidemment dans le sillage de gens qui ont l'habitude d'être militants dans différentes structures, mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez en tant que militant associatif pour Alternatiba et ANV COP21, qui est une forme de un début ou une continuité de convergence entre différents mouvements?
C'est quelque chose qui était attendu depuis un moment quand même. On parle beaucoup de convergence, etc. C'est quelque chose qui n'est pas évident. On n'a pas tous les mêmes avis, on n'a pas tous les mêmes envies de protéger telle ou telle chose. Donc par contre, on sait que c'est important. On dit qu'il faut 3% d'une population pour créer un soulèvement et des changements, pour rester simple. Donc là, finalement, il faut savoir aussi des fois accepter les requêtes des autres, voire pour trouver un point commun. C'est ce qu'avait fait Gandhi il y a plusieurs années, en trouvant tout simplement le sel comme dénominateur commun de toute la population pour créer un soulèvement. Donc là, j'appelle pas un soulèvement des populations, mais en tout cas, pour trouver un dénominateur commun, il va falloir justement se rassembler, discuter, échanger. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que les populations, enfin, discutent et parlent de leurs avis, restent pas dans leur coin.
Et le bien-être écologique et le bien-être social sont totalement liés, quoi. Donc, c'est la convergence, elle est là dans nos combats dès le départ. On est tous motivés pour une justice sociale, une justice écologique qui sont complètement liées.
Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays d'Europe ?
Bah oui, on le voit un petit peu partout de toute façon, même ne serait-ce que là pour la grève des lycéens, des étudiants, on voit qu'il y en a un petit peu partout dans le monde, hein. Il suffit de regarder la carte et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc on voit que, enfin on sait en tout cas qu'il y a un épuisement des ressources depuis le Club de Rome en 1972 avec le rapport Meadows. Au début on a pris ça un petit peu à la rigolade et au final on voit que finalement toutes les prévisions sont en train de se réaliser. Donc je pense que ça inquiète, les scientifiques en parlent depuis des années et des années, ont des solutions depuis des années et des années. Et là, au bout d'un moment, voilà, on a pu gagner en qualité de vie, en santé, etc. Et enfin, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres projets et que pas très loin, il y a un épuisement qui arrive et il faudra bien faire quelque chose à ce moment-là. Donc même les jeunes sont en train de se mobiliser aujourd'hui. De toute façon, donc ça, c'est super important aussi parce que finalement, c'est aussi leur monde qui va être attaqué au final.
Je voulais revenir en un mot peut-être sur l'action en justice qui est portée par l'affaire du siècle, donc cette pétition signée par plus de 2 millions de personnes, et surtout voilà, et c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres endroits du monde, des actions en justice pour non-respect des engagements pris par les gouvernants. On pense notamment à la COP21 avec l'accord de Paris où l'État français et le gouvernement français de l'époque étaient très contents et très satisfaits de pouvoir communiquer dessus. Et on a la sensation, à l'inverse, que les engagements qui avaient été pris à ce moment-là ne sont pas respectés, tenus, ou en tout cas dans une trop modeste façon. Est-ce que le terrain de l'action judiciaire, l'action en justice, est selon vous une bonne façon de mettre, si ce n'est l'État à l'amende, pardonnez-moi l'expression, en tout cas de porter l'attention des médias et du grand public sur ces questions climatiques, notamment?
Je pense que l'affaire du siècle, c'est un peu une excuse, cette action en justice. Je pense pas que ça aboutira sur quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, il n'y a pas vraiment une personne qui sera attaquée. Donc je pense que ça va pas. Bon, voilà, ça va pas aboutir sur quelque chose d'incroyable, mais ça montre vraiment que les gens sont vraiment dans l'attente et sont très déçus de ce que font leurs gouvernements successifs. Parce que là, ça concerne tous les gouvernements qui étaient là avant. Et qu'on attend que ce qui était trouvé aux accords de Paris soit atteint. Et donc, cette affaire du siècle, l'intérêt, c'est ça montre vraiment que les citoyens sont mobilisés et dans l'attente que leur gouvernement prenne des actions.
Et on voit bien, enfin, pendant la COP21, justement, l'État était en même temps en train de faire des accords avec les États-Unis pour pouvoir importer du gaz de schiste. Les infos qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc on voit bien que même pendant une conférence of the party pour essayer de mettre tout le monde d'accord, on fait en même temps des accords pour polluer plus grâce à un gaz encore plus polluant que le gaz naturel. Donc c'est bien aussi de mettre au bout d'un moment l'État en face de ses propres contre-vérités. Et que c'est un petit peu facile aussi de dire que l'État fait sa part et que maintenant c'est aux citoyens et aux entreprises de faire quelque chose. Et on a aussi besoin de l'État, on a aussi besoin de lois pour pouvoir avancer.
Alors, on va revenir sur la place, entre guillemets, de chacun, que ce soit à l'échelon citoyen, à l'échelon local, mais également celle de la place des entreprises, des collectivités locales, du gouvernement. Pour rester encore un instant sur le niveau national et le niveau gouvernemental, se clôture aujourd'hui le grand débat voilà, qui a été mené et lancé par le président et le gouvernement il y a maintenant, j'ai envie de dire 2 mois, pardon pour cette approximation. Est-ce que vous, vous en attendiez, vous en attendez quelque chose, et qu'est-ce que ça pourrait être, notamment sur, évidemment, les questions climatiques, mais plus largement environnementales et écologiques, et également solidaires, puisque le ministère de la transition écologique est celui également de la solidarité.
Déjà, on peut dire que c'est un petit peu court, hein, 2 mois pour parler de toutes ces solutions. Et puis, c'est un petit peu facile parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les scientifiques avaient déjà pas mal de solutions au niveau climatique, ont déjà été dit. Donc, redemander aux citoyens ce qui a déjà été prouvé et démontré par énormément de scientifiques, c'est un petit peu un non-sens. Et surtout que l'appel du président dès le départ donnait déjà de grosses lignes directrices, où il n'y avait pas beaucoup de portes de sortie. Donc, c'était un petit peu redire ce qu'il avait déjà prévu de faire, comme quoi il ne reviendrait pas en arrière. Sur des projets sociaux, comme par exemple instaurer un quota d'immigration aussi, hein, tout, mettre gentiment ça dans une lettre aux citoyens, je trouve que c'est un petit peu facile. Donc en attendre quelque chose, moi personnellement non. Après on peut dire quand même qu'il y avait un intérêt de donner la parole aux gens et de pouvoir les laisser s'exprimer, et ça c'est plutôt intéressant si ensuite ça permet aux gens de continuer à faire ce genre de choses et à se politiser entre guillemets pour pouvoir avoir des idées et pas seulement aller voter une fois tous les 2, 3, 4 ans.
Manon, Sarah, n'hésitez pas.
Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça faisait plaisir de voir cette mobilisation nationale et beaucoup de gens qui ne témoignaient pas forcément ont pris la parole. Donc c'est intéressant à voir.
L'idée de pouvoir échanger avec ses semblables, oui. De toute façon, et saluer... en tout cas, vous saluez cette démarche-là, en effet, que voilà, il y a des moments de réunion, d'assemblée où on peut débattre, on peut échanger autour de différents sujets. Peut-être pour conclure cette première partie d'échange, ça a été un petit peu abordé, mais voilà, votre regard face au dérèglement climatique, la grande question, c'est la place de chacun, qu'on soit citoyen, qu'on soit, comme vous par exemple, militant associatif, que ce soit Alternatiba ou ANV COP21, cette place-là de citoyen militant, donc on va dire engagé, c'est la vôtre, mais il y a aussi, se pose la question des places, ou de la place des entreprises, des collectivités locales, du gouvernement, des gouvernements. Voilà, comment vous voyez un peu cette harmonisation, cet équilibre entre la place des uns et des autres, et qui doit, quelque part, j'ai envie de dire, prendre le leadership. Est-ce qu'on doit attendre du gouvernement et que la société se mette en ordre serré derrière l'action gouvernementale, ou est-ce que, peut-être à l'inverse, ça doit venir de la société civile et les collectivités, les entreprises, c'est elles qui emboîteront le pas par la suite?
Je pense qu'il ne faut pas attendre que ce soit l'un ou l'autre et pointer un parti du doigt. Il faut que ce soit tout le monde en même temps. Nous, les citoyens, bien sûr, on a notre part à jouer en réduisant nos consommations, en prenant moins la voiture. On a énormément d'impact possible, tous à notre échelle, même si à chaque fois, quand on fait ça de son côté, on se dit... qu'est-ce que ça peut changer? Mais bon, si tout le monde fait la même chose, ça a un impact très important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on n'a pas de possibilité de jouer. Quand il y a des projets d'ouvrir des nouvelles zones commerciales, par exemple, qui vont grignoter sur des terres naturelles ou agricoles, bah là, en tant que citoyen, on regarde. Et s'ils veulent faire ce projet, bah, ils vont le faire. Donc, même si on déréduit notre consommation, à la fin, il n'y aura personne qui ira dans ces supermarchés, mais le supermarché, il aura bien été construit. Donc là, il y a des responsabilités à prendre au niveau des politiques. Là, on parle de politique locale, mais au niveau des politiques nationales également. Par la prise de loi, par exemple contre le glyphosate. Là, on a beaucoup à attendre du gouvernement, c'est qu'un exemple.
En tout cas, on a beaucoup de choses à attendre des citoyens, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup laissé faire les États, et on voit bien qu'on pollue de plus en plus. De toute façon, on a émis encore plus de CO2 que les années précédentes. On devait baisser nos émissions de CO2 au niveau français, et finalement, entre 1995 et 2019, on est toujours au même niveau. On est même en train d'augmenter sur les 2 dernières années. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc il faut réussir à impulser ça. En tant que citoyen, on peut aller voter, etc., faire les choses classiques, mais on peut aussi se mobiliser. On peut bloquer des projets inutiles, ça s'est déjà fait, hein, Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc il faut se muscler un petit peu, entre guillemets, pour imposer des choses aux États et aux entreprises, parce que les États, de toute façon, sont devenus des facilitateurs des multinationales actuellement, de toute façon. Toutes les lois sont faites pour elles, on a des énormes lobbies un petit peu partout. On voit que Coca-Cola a dit pour 2030, il faut plus de déchets, mais en même temps, enlève les bouteilles en verre et les consignations dans d'autres pays. Lutte pour ça, donc on voit bien que c'est contradictoire, on voit bien que même sur des documents internes qui ont été mise en place, enfin, révélée par Élise Lucet l'année dernière dans un cache investigation. Ils ont quand même le projet d'éviter toute mise en place, en tout cas de consignes liées à des bouteilles en verre. Donc on voit bien que l'État ne fonctionne, enfin ça ne fonctionne pas et que les entreprises ne le feront pas d'elles-mêmes. Il faut que ça vienne du citoyen, du consommateur, entre guillemets, même si j'aime pas ça, il ne faut pas se réduire à une carte bleue, mais on peut faire d'autres actions.
Vous n'êtes pas juste des cartes bleues, amis auditrices et auditeurs, et c'est en tout cas peut-être l'information principale de cette première partie d'échange. On va s'accorder une petite pause musicale, on va revenir dans un instant avec vous Manon, Sarah et Anthony, on parlera peut-être plus concrètement de ce qui se passe ici en local sur Évreux, sur ce que vous organisez demain samedi. On prendra le temps d'en parler et puis voilà, pour également élargir un peu la discussion, on reviendra peut-être sur l'actualité également locale, puisqu'il y a eu quelques sorties dans la presse sur un sujet ou deux qui peuvent peut-être nous intéresser. On repart en musique et on revient juste après avec vous. On va écouter Mato featuring Erwan. Le morceau, c'est More Dub. Featuring Erwan, l'ex ou toujours actuel chanteur de Java. Je crois pas que le projet soit mort. En tout cas, le morceau s'appelait More Dub.
Le pire reste à venir. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le pire reste à venir.
Voilà, et toujours en plateau ici avec Manon, Sarah et Anthony d'Alternatiba et ANV COP21, les émanations locales de ces associations. Sur Évreux, on vous invite aujourd'hui pour parler écologie, environnement, climat, mais surtout dans le cadre de la mobilisation internationale des marches pour le climat et la déclinaison qui se déroule demain à Évreux. Qui prend la forme d'un ramassage de déchets. On en parle dans un instant. Mais comme on est sur l'échelon local, après des considérations plus larges et plus globales, on a parlé tout à l'heure action en justice en parlant de l'affaire du siècle. Ici à Évreux aussi, il y a eu une action en justice qui a été menée, portée par l'association Évreux Nature Environnement par rapport au chantier de la déviation d'Évreux. C'est un chantier qui fait couler de l'encre depuis un moment et le fait que cette action en justice ait amené mis un terme, en tout cas visiblement définitif, mais on va dire provisoire en prenant des pincettes ou en tout cas en étant prudent. Ce chantier est donc stoppé de la déviation d'Évreux. C'était, on rappelle, une deux fois deux voies qui devait être créée. Voilà votre regard en sachant que le fait que ce chantier soit bloqué amène des réactions. Visiblement, c'était dans les articles qu'on pouvait lire dans la presse, et notamment Heure Info, La Dépêche, pour ne pas les citer. Quelques réactions, pas forcément tendres avec les militants écologistes, puisque pas mal d'habitants d'Évreux et de son agglo attendaient la fin de ces travaux. Voilà, votre regard ou pas sur cet événement local, appelons-le comme ça.
Oui, c'est vrai que pour les habitants, ça peut être un petit peu dur, entre guillemets, parce que oui, ils pensaient ne plus avoir de camion, qui allait passer à côté de chez eux, etc. C'est vrai que pour le problème de pollution et de bruit, etc., ça peut être compliqué. Mais il faut se dire que le projet avait tout simplement été mal cadré dès le départ, avec on n'avait pas du tout fait attention à l'environnement, etc. Et ça avait été même, j'ai l'impression, un petit peu esquivé délibérément. Donc voilà. Au départ, en tout cas, tout ce qui avait été décidé au niveau politique avait été mal conçu. Donc heureusement qu'il y a des associations qui sont là pour justement pouvoir regarder un petit peu tout ça avec un œil neuf et un œil neutre, justement, pour pouvoir éviter des problèmes de pollution. Là, il y avait des gros problèmes de pollution d'eau qui seraient arrivés. Donc les gens auraient été peut-être très contents de ne plus voir de camions et de véhicules passer à côté de chez eux, mais à côté, ils auraient eu une eau totalement dégradée et n'auraient plus pu la boire. Pour les camions, les véhicules, on a une solution. Bientôt, il n'y aura plus de pétrole, donc il n'y aura plus de véhicules qui passera tout simplement chez eux. Donc voilà, tout sera réglé. En plus, on aura de l'eau potable.
Comment est-ce qu'on peut travailler penser à un projet depuis 40 ans et s'apercevoir que tout compte fait, non, ça ne le fait pas, ça ne va pas. Il y a une rivière qui coule, il y a une station de captage d'eau, etc. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi.
Il y a 40 ans, c'était pas les mêmes problématiques. On faisait quand même beaucoup moins attention à ça. Forcément, il y a ce qu'on appelle les grands projets inutiles, hein, les GPI. On a énormément sur le territoire, hein, d'autres déviations. On peut parler aussi de la déviation de Rouen en ce moment, où il y a d'autres associations qui sont en train de lutter aussi au niveau local. Ça se fait aussi à Strasbourg. On a Europa City près de Paris, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées dans un contexte économique et aussi environnemental différent. Et on voit que c'est plus adapté. Au bout d'un moment, il faut savoir aussi se dire finalement, la solution n'était pas la bonne. Elle était mal pensée. Il faut savoir revenir en arrière quand ça vient d'une politique dépassée, tout simplement.
Ça fait le parallèle avec l'affaire du siècle. Voilà, qui peut-être un exemple en déclinaison locale d'une action en justice qui peut aboutir, en tout cas, le fait que le chantier soit stoppé là concrètement, et puis le fait de remettre sur la place publique des débats, des discussions autour de ces questions de protection, en effet des cours d'eau, des nappes phréatiques, mais tout simplement des sols également, puisque les pollutions terminent dans les sols. On va être pris par le temps, donc il faut quand même qu'on accélère sur nos discussions, mais c'était plutôt intéressant, et parler de la journée de demain. Marche et ramassage de déchets à Évreux, trois points de départ. Les trois points de départ, on va les citer tout de suite, ce sont les places devant les maisons de quartier, de trois quartiers en tout cas d'Évreux. La place à côté de la place Kennedy, la maison de quartier de la Madeleine. La place du Guet Rouin à Netreville, donc c'est la maison de quartier de Netreville. Et la place de Navarre avec juste devant l'amicale de Navarre. Le but, c'est de partir de ces trois points et de converger vers le centre-ville jusqu'à la cathédrale et de ramasser globalement tout ce qui traîne sur la voie publique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. J'ai l'impression que oui. En tout cas, personne ne me conteste en plateau, donc ça va. Bah si, vous avez des choses à dire. C'est quoi le but de cette journée, tout simplement?
Le but, c'est de sensibiliser à l'impact sur l'environnement des déchets. Qui peuvent polluer, comme on disait, hein, les gros déchets, ça peut polluer les nappes phréatiques, etc. Voilà, rien que les mégots, ça pollue les cours d'eau, ensuite les océans, ça tue les poissons, etc. Et on s'en rend pas vraiment compte. Donc déjà, ça, c'était un point très important. Sensibiliser au tri aussi, parce que les gens trient pas très très bien. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du tri des déchets et le tri, ça permet de réduire quand même le gaspillage des ressources. Et puis aussi, donc, c'était pour s'inscrire donc, dans une marche. Donc on a voulu que ce soit mobile pour faire comme tout le monde, je dirais, tous ceux qui font des marches là, en ce moment pour le 16 mars, la marche du siècle. Voilà. Et puis interpeller aussi les citoyens, les commerçants, les entreprises. Sur le suremballage et les différents facteurs de surproduction des déchets, parce que bon, les citoyens, ils ont leur part, mais aussi les pouvoirs publics et puis les grandes entreprises, même les petites, tout le monde a sa part de responsabilité. Et puis aussi le fait de faire une marche donc, qui part des différents quartiers, c'était pour qu'on soit bien visible sur toute la ville et qu'on ne reste pas cloisonné au centre-ville comme c'est souvent le cas en fait quand on fait des manifestations comme ça. Voilà, on tourne au centre-ville et puis on ne nous voit pas beaucoup ailleurs.
Il y a plein de... Oui, Manon, n'hésitez pas.
Je voulais ajouter que ça montrait... c'est 2 km pour les trois parcours pour se rejoindre au centre-ville. Et ça montre aussi qu'on peut se déplacer à pied dans Évreux, qu'on n'est pas obligé de prendre la voiture pour aller d'un quartier au centre ou d'un quartier à l'autre. Et que c'est possible de se déplacer à pied. Et par contre, niveau sécurité, pour les déplacements doux, il n'y a pas forcément tout qui est mis en œuvre. Donc montrer que les citoyens veulent bien se déplacer à pied, plus que ça, voilà.
Il y a plein de portes d'entrée au travers de cette action et plein de buts différents, connexes, en tout cas qui sont recherchés. Sur les déchets, on en a un petit peu parlé, mais vu que c'est un peu la thématique plus précise de cette action-là, je veux bien qu'on reste un peu plus longtemps dessus. J'ai envie de poser la question, chacun a ses responsabilités, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y en a pas un qui est un peu plus responsable que les autres? Entre les entreprises qui produisent des déchets et les consommateurs qui choisissent de continuer à consommer ces produits de consommation avec un suremballage. Alors il y a cette question-là, et puis il y a la question, encore une fois, du tri ou pas. On a la sensation aussi à chaque fois que le citoyen est le dernier maillon de la chaîne, et que quelque part il subit un processus de production de déchets, et en bout de chaîne, c'est à lui de faire le tri, ou pas d'ailleurs, des déchets. Il n'y a peut-être pas de questions très précises au bout de cette phrase, mais débrouillez-vous avec ça, si
merci,
ça vous va.
On va essayer. Non mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue finalement, parce que il y a des déchets, enfin des produits qui deviennent des déchets, qui sont directement, qui émanent directement des entreprises. Le citoyen, oui, les consomme, donc les entreprises vont dire, comme c'est consommé, moi je continue à le faire, et comme je continue à le faire, je le vends, c'est jeté, etc., etc. Donc pour casser un petit peu ce schéma, il faut prendre directement le problème à la source. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas fabriqué. Donc si directement les entreprises se responsabilisent, un petit peu compliqué, ou en tout cas sont obligés par des lois et des législations, là forcément ce sera beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'agir sur la source que d'aller fliquer un petit peu tout le monde au niveau des citoyens.
Concrètement, là on ne peut pas compter sur la bonne volonté des entreprises. Il faut absolument qu'il y ait une loi ou une façon d'appliquer la loi. Peut-être que ça ne passe pas forcément par la création d'une nouvelle loi, mais que les pouvoirs de police et de justice puissent concrètement appliquer la loi, faire appliquer la loi et du coup, contraindre les entreprises à réduire drastiquement la production de déchets. C'est dans cette idée-là?
Oui, c'est la seule solution. Les entreprises, ils ne vont pas décider par eux-mêmes. Enfin, il y en a évidemment qui prennent les bonnes décisions, mais sinon, leur but, c'est quand même de faire du profit à un moment donné. Donc, ils ne vont pas se mettre des difficultés. S'ils veulent faire du profit, ils vont à ce qui se fait aujourd'hui et ce qui n'est pas écologique. Quoi.
On peut le voir avec quelques années, il y a quelques années avec les bouteilles de lait en PET.
En PET, donc polyéthylène de quelque chose.
C'est un petit peu compliqué. Personne ne le connaît. Voilà. Mais le PET rigide, du coup, on avait des bouteilles de lait qui étaient recyclables avec le petit opercule d'aluminium. Et finalement, comme c'était trop cher, on a fait un autre PET qui est beaucoup plus difficilement recyclable. On peut en mettre que 15% dans du plastique classique pour le recycler. Mais comme c'était plus léger et que ça permet apparemment de protéger un peu mieux le lait, tout le monde s'est un peu rué là-dessus. Et malheureusement, on a des infrastructures de recyclage qui ne sont pas prévues pour. Donc ça commence un petit peu à bouger, mais si jamais il n'y avait pas eu la société civile qui s'en était emparée, qui s'en était rendu compte, on n'aurait que des bouteilles comme ça un petit peu partout.
Pour préciser l'organisation de la journée de demain, puisqu'il va peut-être y avoir des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent ce matin, qui n'avaient pas encore l'info et qui ont envie de vous rejoindre. On le disait, rassemblement dans trois lieux différents au point de départ, les maisons de quartier de La Madeleine, Netreville et Navarre, à 14h, c'est ça. Qu'est-ce qui est prévu ensuite? Comment ça se passe et quand est-ce qu'on se retrouve, puisque il y a l'idée de se retrouver au bout d'un moment avec ces trois cortèges différents?
Alors on part de 14h de ces trois maisons et on rejoint la cathédrale à 16h avec un stand du CETOM. On prendra un petit pot, ce sera un moment convivial, on échangera entre nous. S'il y a des gens qui veulent rejoindre les mouvements CTCE, le CTCE Alternativa, Action Non Violente ou autres, ils pourront nous donner leur adresse mail. Voilà, c'est un moment où on pourra échanger avec les hébroïciens qui sont intéressés par ces questions-là. Et je voulais préciser qu'il faudrait penser à prendre des gants pour ceux qui en ont, gants de jardinage ou gants de ménage, voilà, pour ramasser les mégots, c'est quand même plus sympa d'avoir des gants.
Du coup, on a parlé de cette journée, trois points de départ, on démarre à 14h, on se balade vers le centre-ville, vers le centre-ville, on ramasse tout ce qui traîne avec des gants et dans des sacs. L'idée, c'est que les gens fassent le tri aussi.
Oui, on fait le tri en chemin, oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, à 16h, on se retrouve pour qu'est-ce qu'on fait de ces déchets, d'ailleurs? Vous avez parlé du CETOM, c'est le CETOM qui repart avec, c'est ça?
Non, les jettes dans l'iton.
Non, mais c'est vrai, les gens vont se poser la question de ce que vous allez faire des déchets. Mettre dans votre jardin?
On aura un camion à l'arrivée qui sépare les déchets recyclables et non recyclables, quand même.
Et ce camion, il les emmène où?
À la poubelle.
À la poubelle, d'accord.
Non, en fait, c'est le camion de la mairie, donc ça sera emporté par les camions... Qui font habituellement le ramassage des déchets et qui vont à l'incinérateur pour les ordures classiques et puis au CETOM, enfin au recyclage pour les recyclables. Voilà.
Très bien. Évidemment, on peut se rapprocher d'Alternativa Évreux ou d'ANV Évreux pour plus amples informations. Je crois qu'on trouve tout ce qu'il faut sur les internets et les réseaux sociaux qui vont bien. Dernière petite chose pour clôturer cet échange. Qu'est-ce que vous espérez au-delà de ce week-end d'action climatique, écologique, environnementale? Je ne sais que comment le qualifier précisément, mais plus sérieusement, voilà. Qu'est-ce que vous espérez en termes d'action, de mobilisation pour la suite? Là, ça ne concerne pas forcément les associations que vous représentez, mais vous, en tant que citoyen et militant associatif.
Moi, j'espère que la mobilisation citoyenne continue très fort et qu'elle augmente, et puis surtout que des décisions radicales soient prises au niveau des gouvernements et que simplement déjà les accords de Paris soient respectés et qu'on mette tout en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et également, parce que là c'est sur les changements climatiques, également que les gouvernements mettent tout en œuvre pour protéger la biodiversité actuelle.
Oui, même pour aller un petit peu plus loin, des décisions même encore plus fortes, parce qu'on sait que là, les accords de Paris, etc., ne mèneront qu'à une augmentation de au moins 3 à 4 degrés. Donc si on veut vraiment se limiter à 1,5, il faudra même doubler ces engagements, donc, et sur des décisions très rapides. Donc c'est maintenant que ça se prend, ces décisions, donc il faut s'engager maintenant.
Voilà, moi c'est surtout que les citoyens aussi soient... soient plus sensibles à toutes ces questions. Et puis parce que j'avoue que j'en attends pas beaucoup des politiques.
Hein. Très bien. On s'accorde un extrait musical parce que je crois qu'on va pas avoir le temps de diffuser plus. Et puis on retrouve Olivier pour conclure cette émission avec son marronnier. En tout cas, merci à vous Manon, Sarah et Anthony d'Alternatiba et ANV Évreux d'être passés par nos micros de bon matin. On vous rappelle que cette marche est ramassage de déchets, coup d'envoi 14h, maison de quartier de Navarre, maison de quartier de Nétreville, maison de quartier de La Madeleine à Évreux, coup d'envoi 14h et on se retrouve à la cathédrale à Évreux aux alentours de 16h. On repart en musique et on retrouve Olivier juste après.
Leurs emblèmes, que du prestige sur BPM. Ils pissent dessus et tu dis qu'il pleut. Alors quelque part c'est que tu le mérites. Ils ont prévu de te chier dans les yeux. Tu vas parler de pluie de météorites. Ils sont tous pleins de démagogie. Chaud pour gonfler leur fanbase. J'ai pas le temps frère, l'histoire de mes rimes débute en février 73. Un beat, un synthé, t'inquiète, nous on va s'occuper de la synthèse. On arrive vite retenté, t'es prêt, c'est l'heure des offrandes à la Sainte Vierge. La vie c'est violent, chaque fois ça commence toujours par une baisse. Le sperme bloqué dans une capote a très souvent évité un piège. J'y réfléchis, je te jure mon frère, et moi je comprends ce qu'ils veulent. Ah maintenant on peut plus rien dire, c'est ça exactement, ferme ta gueule. Dans le casting de notre prof, nous il n'y a que des podcasts de catastrophe. Eh s'il faut te mettre dans un coffre, on peut même lancer un appel d'offres.
Ils sont beaux et brillants et nous on est mal habillés. On apprend nos vies truands, armés dans des salles à prier. On est bornés, on est brillants et ils voudraient qu'on soit mornés. Sur nos terrains sont leurs tyrans quand ils ont des balles à tirer. Fanatisés, on vit comme des flammatisés. Les flics dans des voitures banalisées cherchent nos crânes à briser. Pas conciliant, mauvais client, s'il faut plier. Votre monde est puant, désolé, mais on n'est pas attiré. J'ai du mal à y être, c'est comme une maladie lente. On y vient innocent, un jour le malin y rentre. Ils veulent tuer ma haine, mais elle est là, bien vivante. Tu peux piétiner cette graine, mais fais gaffe à la suivante.
Voilà, un extrait, Al Kazé, Beat James, Prodige, le collectif En Falche, le vertige des HLM, c'est le titre du morceau. Et sans transition, on retrouve l'ami Olivier pour conclure cette émission avec son marronnier. Bonjour à vous, ami Olivier.
Bonjour, bonjour Tim, bonjour, bonjour tous les mondes dans le studio et tous les mondes derrière vos postes. Aujourd'hui encore pour ce marronnier, une journée internationale. Une journée internationale d'actualité puisque le 11 mars, c'est la journée internationale de lutte contre les violences policières. Une initiative québécoise qui remonte au milieu des années 90. Elle est reprise depuis 1997 en France, assez discrètement, au travers notamment la marche des solidarités qui fusionne cette journée et la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Discrète et confidentielle, cette journée, elle le fut longtemps, enfin jusqu'à demain. Si les actions et manifestations sont rares, aujourd'hui, c'est pour demain, samedi 16 mars, que nous sommes appelés à marcher, et il semble que subitement, cette cause devienne populaire. C'est vrai que, tant que la violence policière ne touchait que des gars de banlieue, des punks à chiens et des zadistes, supposément enivrés de drogue et de violence et cherchant à défouler leur jeunesse en léchant les vitrines à grands coups de barabine, il n'y avait rien d'étonnant à ce que les forces de l'ordre utilisent le matériel militaire pour défoncer un crâne. Mais là, je ne sais pas, peut-être à cause des 6000 gardes à vue, des centaines de comparutions immédiates et autant de peines de prison, des 195 blessures à la tête dont 21 éborgnements, des 5 mains arrachées, d'une octogénaire assassinée à sa fenêtre, on sent une petite tension dans l'air. C'est que ça devient de plus en plus dur à faire rentrer dans la tête des gens l'idée de l'ordre républicain. Même à coups de LBD, de grenades Gli F4, voire de tonfa, les gens ne comprennent pas tout de suite que pour garder la paix, le pouvoir doit faire la guerre. Afin donc de calmer les ardeurs des gilets jaunes, des blouses blanches et roses, des stylos rouges, des cagoules noires, les tuniques bleues deviennent de véritables spartiates en rang serré, bouclier contre bouclier, le casque étincelant et la matraque lubrifiée. Ah, nous sommes loin de la catacatique du gendarme. Il ne s'agit plus de bien observer sans se faire remarquer pour verbaliser avec autorité. Aujourd'hui, on se montre et on en remontre et on agit. Et de l'action, le chef, il en fait exemple. Hein. Pas plus tard que la semaine dernière, il s'est montré infatigable. Sitôt fini une 15e journée d'émotion populaire, que Castaner fit rejoindre Teddy Riner en boîte de nuit pour se taper quelques shots et draguer de la trentenaire au comptoir. Si ça, c'est pas du Gavin Hill, hein, quand même. Bon, question à 16 guerrières, on n'est pas chez les Spartiates, ça ressemble plutôt à de la Bowery Viking. Mais enfin quoi, c'est le repos du guerrier. Quand on passe sa journée à calculer le ratio balles de plastique manifestants défoncés, il faut bien évacuer le stress et donner un peu de sens à sa vie. Alors c'est sûr, à galvaniser les troupes en leur promettant qu'en prenant du grade, on picole à l'œil et on se tape des meufs, en leur refilant des armes à usage illimité, en traitant les retraités, les smicards et les mères célibataires de talibans et de terroristes, les mecs ils se lâchent. Hein. Sous leur casque, ils sont remontés à bloc et ils cognent. Alors pour ceux et celles qui croiraient encore que les réponses à nos problèmes viendraient de l'État, de responsables politiques, des hommes et femmes de pouvoir, la réalité est amère. De réponse, il n'y aura jamais que le There is not alternative au libéralisme, accessoirisé par l'arsenal répressif que les manufactures d'armes sont capables de produire. Du coup, on est obligé de refaire encore une manif la semaine d'après. Enfin trois, parce que demain, il y a trois manifs. Il y a la manif de la solidarité, la marche climatique et l'acte 16 des Gilets jaunes. Donc pas mal de villes. Donc trois occasions de montrer la puissance et la détermination de l'État à faire taire la plèbe. En province, on s'arrange. La plupart des rassemblements sont communs. À Paris, ce sera graduel et non la suite. La manif de solidarité rejoindra la marche climatique et le tout convergera vers les Gilets jaunes. La convergence des luttes, on appelle ça. Je ne saurais trop vous conseiller, si vous décidez de converger demain, de respecter quelques règles strictes pour éviter les violences policières. Premièrement, ne fermez pas vos volets près des forces de l'ordre, ça énerve les policiers. Si vous êtes voisin de quelqu'un qui parle à un sandwich, ne vous affolez pas. C'est le déguisement des talkie-walkie de la DGSI. Ben oui, avec ce qu'on paye en les blés, il n'y a plus grand chose pour le camouflage et les oreillettes. Ne prenez pas de livres dans votre voiture, ça les énerve aussi. Vous risquez un passage au poste. Préférez une carte d'adhérent à La République En Marche, qui vous donnera un accès gratuit à des shots gratos en soirée. Et surtout, si vous croisez le ministre de l'Intérieur, regardez s'il n'est pas accompagné par Teddy Riner avant de lui casser la gueule. Parce que Teddy Riner, c'est quand même Teddy Riner.
Merci à vous, Olivier, pauvre Teddy Riner. Mais on apprend grâce à vous, notamment, que les LBD sont des armes bio, enfin en tout cas renouvelables. Elles vont dans le bon sens d'un point de vue écologique, puisqu'elles ont un usage illimité, selon ce que vous nous racontiez il y a quelques instants.
Alors dans le temps, je sais pas, mais dans la fréquence, on en est quand même à 13 000 cartouches tirées en 3 semaines.
Eh oui. On n'arrête pas le progrès. Merci en tout cas à vous, ami Olivier. On vous retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, si... Tout va bien, il va être grand temps pour nous, ou presque, de conclure cette émission. On rappelle et on remercie nos invités, à savoir Manon, Sarah et Anthony d'Alternatiba et ANV Évreux. Merci à vous, Olivier, d'être passé, comme chaque vendredi, nous parler d'un marronnier. Voilà, aujourd'hui c'était la journée de solidarité. Non, ça a été, j'ai quand même écouté, c'était la journée internationale de
lutte contre les violences policières.
Voilà, et qui a pris cette déclinaison française de Journée des Solidarités, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
En tout cas, merci voilà, d'avoir éclairé nos lanternes sur ces précisions sémantiques. Merci à vous également, ami Jean-Jean, d'être là chaque matin avec moi, me tenir compagnie, me tenir chaud.
Merci, monsieur Pignon. Moi, je vais aller marcher ce week-end. Marcher, je ne sais où, mais marcher.
Prenez l'air, cher ami, pour revenir lundi matin en forme et de bonne humeur pour notre prochaine... matinale. Si vous voulez connaître la suite des programmes sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR, eh bien, je vous invite à vous rendre sur nos sites internet respectifs, radiohdr.net, principeactif.net. Vous connaîtrez ainsi le programme du jour, voire même celui du week-end. Voilà, et toutes les émissions et les animateurs qui les animent, c'est précisé sur les sites internet qui vont bien. Nous, on se retrouve lundi matin dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute des programmes de Principe Actif et d'HDR. Ciao, 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 ciao.